Le journal Sébastien Legénie.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, des sportifs sous la menace de températures caniculaires. Ça se passe au Qatar qui accueille à partir de demain les mondiaux d'athlétisme. Même les médecins sont inquiets, nous serons à Doha dans un instant. Un incendie spectaculaire d'un site Seveso à Rouen. 11 communes appelées se confiner par précaution et des établissements scolaires fermés pour la journée. On entendra dans un instant le préfet de Seine-Maritime. À suivre également, la droite qui agite le spectre de la gestation pour autrui, la GPA. Au débat sur la bioéthique à l'Assemblée nationale, le président ukrainien qui soutient le président américain suite à la procédure de destitution enclenchée contre Donald Trump. Et puis des microplastiques en pagaille dans votre tasse de thé, on vous dit tout en fin de journal.
Et à l'occasion de l'exposition consacrée à Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton, sa fille Pernette Perriand-Barsac et l'historienne Michèle Perrault seront dans 20 minutes à 7h50 les invités de Léa Salamé.
France Inter.
Quand il fait trop chaud, Sébastien, pour courir un marathon.
C'est la crainte des athlètes actuellement dans les starting blocks au Qatar. C'est demain que commenceront les mondiaux d'athlétisme de Doha, un championnat du monde déjà très controversé à cause des soupçons de corruption qui pèsent sur l'organisation. Et un événement maintenant menacé par la canicule, une chaleur étouffante à Doha au point que certaines épreuves pourraient être annulées pour raisons de sécurité. Sur place au Qatar, le reportage de Vincent Pellegrini.
Tout le monde s'attendait à subir un choc thermique en arrivant à Doha à cette période de l'année. Mais pas à ce point, Patrice Gergès, directeur technique national de l'athlétisme français.
C'est vrai que la sortie de l'aéroport avait l'impression d'être une pizza qui rentre dans un four. Et les Antillais eux-mêmes ont été étonnés puisqu'ils sont un peu habitués à un climat chaud et un peu humide. Et là, ils disent que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils connaissent.
Il fait 40 degrés à Doha en journée avec un taux d'humidité de 80% et à peine moins le soir et la nuit. Les conditions météo sont donc extrêmes, notamment pour les épreuves de longue durée qui se dérouleront hors du stade. Jean-Michel Serra, médecin de l'équipe de France, ne cache pas une certaine inquiétude.
L'athlète, bien que sentant l'effet de la chaleur, ne se rend pas compte que l'effet de l'humidité est encore pire que celui de la chaleur et qu'il se retrouve à vouloir produire le même type d'effort qu'il fait en temps normal et donc se retrouver en grosse difficulté. Parce qu'il va y avoir rapidement une dérive du système cardiovasculaire qui n'arrivera pas à s'adapter correctement. On est avec la chaleur plus l'humidité devant des complications très, très sérieuses.
Le marathon féminin est programmé demain, le 50 km marche avec Yoann Diniz samedi. Deux épreuves qui pourraient être annulées si les conditions sont estimées trop dangereuses pour les athlètes. Doha, Vincent Pellegrini, France Inter.
Et si elles ont lieu, les épreuves d'endurance sur route comme le marathon ou le 50 km marche ne démarreront pas avant 23h30, heure locale.
7h33, on part à Rouen, Sébastien, pour cet important incendie dans une usine Seveso.
Des explosions, des flammes de plusieurs mètres de haut. L'usine Lubrizol, un site industriel à risque, est en feu depuis cette nuit à l'entrée de la ville. Il n'y a pas de victimes à l'heure actuelle. Les précisions sur place du préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand.
Nous avons décidé la fermeture des établissements scolaires. Donc, l'inspection d'académie et les maires concernés sont en train d'être contactés pour que les écoles, les collèges et les lycées ne soient pas ouverts aujourd'hui, toujours avec cette même idée d'éviter les déplacements inutiles et de permettre aux services de secours le plus rapidement possible de maîtriser cet incendie qui, vous l'avez compris, était un incendie très très violent et très spectaculaire.
Le préfet de Seine-Maritime, Pierre-André Durand, avec France Bleu Normandie, la préfecture qui a décidé un confinement de la population dans 11 communes autour de Rouen, qui ajoute également qu'il n'y a pas de toxicité aiguë sur les principales molécules d'après les premières analyses. Direction le Palais Bourbon maintenant, où les députés sont maintenant entrés de plein pied dans l'examen du projet de loi de bioéthique, avec notamment le premier article sur la PMA pour toutes. Un débat qui a vite glissé hier soir vers une autre question pourtant absente du texte, la question des mères porteuses, soulevée par une partie de la droite qui craint l'arrivée en France de la GPA, la gestation pour autrui. Maxence Lambrec était à l'Assemblée nationale.
Convaincu que la PMA pour toutes sera vite adoptée, promulguée et finalement acceptée, les députés de droite préfèrent se battre contre, je cite, le droit à l'enfant qui conduira aux mères porteuses.
Comment dans un second temps vous allez dire à un couple d'hommes, eh bien non, vous n'y aurez pas droit, parce que le principe d'égalité devra être appliqué.
Inexorablement, la GPA arrivera, et plus rapidement que ce qu'on croit dans notre pays.
Ce n'est même pas ici que la discussion aura lieu, ce n'est même pas vous qui choisirez la GPA. puisque dans le sens de l'égalité des droits, ce sera le juge et ce sera peut-être la CEDH qui nous imposeront la gestation pour autrui.
La majorité paraît alors gênée, certains acquiescent, d'autres n'ont rien contre une GPA dite éthique, gratuite, à commencer par le rapporteur Jean-Louis Touraine. Il faut donc que la ministre réplique. Agnès Buzyn.
Le principe d'égalité ne tient pas. L'homme et la femme ne sont pas égaux devant la procréation. Et donc, le glissement est impossible. Et donc, cet argument ne tient pas.
Mais ça ne leur suffit pas. Les députés LR Philippe Gosselin et Marc Le Fur insistent.
Nos digues sont des digues de sable. Elles ne tiendront pas.
Si c'était une vraie barrière, si c'était un vrai interdit, il y aurait des sanctions. Où sont les sanctions ?
Insister pour tenter de marquer l'opinion bien plus hostile à la GPA qu'à la PMA.
Maxence Lambrecq, autre débat qui a beaucoup agité l'hémicycle hier, la polémique soulevée par les propos de Jean-Luc Mélenchon qualifiant de barbares les forces de l'ordre en marge des manifestations contre les retraites. Le syndicat de police Alliance appelle à manifester aujourd'hui devant le siège de la France insoumise. C'est demain que l'on connaîtra les arbitrages définitifs pour le budget 2020, mais un ministère dévoile déjà ses chiffres ce matin. Celui de la Défense, un budget en hausse de 4,5% avec une enveloppe portée au total à 37,5 milliards d'euros.
7h36, Donald Trump, toujours aussi serein après le déclenchement d'une procédure de destitution contre lui.
Pas de pression, rien du tout, cette histoire est une blague, voilà ses dernières déclarations hier soir en conférence de presse. Au cœur de cette affaire d'État, on le rappelle, un coup de téléphone du président américain au président ukrainien Zelensky et dans lequel Trump demande à son homologue d'enquêter sur le fils de son rival politique Joe Biden. Hasard du calendrier hier, il se trouve que les deux présidents avaient rendez-vous en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, l'occasion pour les deux hommes de déminer le terrain. À Washington, Gregory Phillips.
Au printemps 2014, alors que son père est vice-président de Barack Obama, Hunter Biden intègre le conseil d'administration de la société gazière Burisma. À l'époque, Joe Biden est celui qui, au sein de l'administration, traite le dossier ukrainien, mais il n'y aura ni poursuite ni révélation de la presse sur un éventuel conflit d'intérêts. Lors de sa conversation au téléphone avec le président Zelensky, Donald Trump sous-entend aussi que Joe Biden a eu la tête du procureur général ukrainien en charge d'enquêter sur cette entreprise Burisma. Mais dans les faits, à l'époque, les investigations sont dormantes et si le vice-président américain a effectivement réclamé la démission de ce procureur, c'était parce qu'il n'était pas assez actif contre la corruption. Le FMI et l'Union européenne avaient exiger la même chose. Dans toute cette affaire, Hunter Biden n'a donc jamais été mis en cause. Il a fini par démissionner du conseil de surveillance de Burisma au début de cette année, sans doute pour ne pas gêner la campagne électorale de son père. Washington, Grégory Phillips, France 1.
La procédure de destitution contre Trump, Pierre Aski y reviendra après le journal de 8h. Les milieux économiques peuvent souffler. La compagnie pétrolière saoudienne Aramco, dont deux sites majeurs avaient été visés par des frappes de drones il y a 10 jours, a déjà rétabli ses capacités de production.
Et votre thé, il est 7h38. Vous le préférez avec ou sans plastique?
C'est peut-être ce qu'un serveur vous demandera, Nicolas, un jour à la terrasse d'un café. Une étude canadienne vient de révéler que sous l'effet de la chaleur, les sachets de thé en plastique libèrent des particules de plastique et dans des proportions insoupçonnées, Sophie Bécherel.
Des particules par milliard dans une seule tasse de thé infusée 5 minutes à 95 degrés, ce qui correspond à l'usage pour les amateurs. Les chercheurs de l'université McGill au Canada ont retrouvé jusqu'à 11 milliards de microplastiques et 3 milliards de nanoplastiques. Les microplastiques font de 1 à 150 microns l'épaisseur des sacs qu'on trouve au rayon fruits et légumes ou même des sacs poubelles solides de 50 litres. Les nanoplastiques, eux, sont invisibles à l'œil nu. Pour l'analyse, les chercheurs ont pris 4 marques de thé différentes et ils ont constaté qu'après 5 minutes dans l'eau bouillante, les quantités de plastique relarguées étaient des milliers de fois plus importantes que dans d'autres aliments précédemment étudiés. La température influe considérablement. À 22 degrés, le sachet relargue 300 fois moins de plastique. Cette découverte doit-elle inquiéter? Même si les deux types de plastique identifiés, le PET et le nylon, sont autorisés pour l'usage alimentaire, ils ne sont pas sans conséquences. Testés sur des petits organismes aquatiques de laboratoire, des daphnies, ces plastiques ne les ont pas tués, mais ils ont perturbé leur anatomie et leur comportement. En attendant l'étude de la toxicité sur l'homme, il faut, recommandent les chercheurs canadiens, privilégier le thé en vrac ou les sachets en papier.
Sophie Bécherel, votre thé avec ou sans plastique, c'est à retrouver sur franceinter.fr. La vache qui rit, en revanche, se convertit aux protéines végétales. Le groupe Bell dit qu'il va s'engager sur, je cite, la voie d'un snacking plus sain et responsable. L'industrie de l'agroalimentaire va investir dans les produits hybrides associant lait et végétaux.
Il est 7h40, on termine avec un festival mondial de marionnettes.
C'est un festival France Inter, le festival des théâtres de marionnettes à Charleville-Mézières dans les Ardennes, 112 spectacles. La marionnette, un art à part entière dans le spectacle vivant, un art où la France a l'une des écoles les plus renommées au monde, Stéphane Capron.
Basil Twist est l'un des deux artistes fil rouge du festival. Natif de San Francisco, il a choisi il y a 30 ans de faire ses études à l'école supérieure des arts de la marionnette à Charleville. Gamin, il regardait avec envie le Muppet Show aux États-Unis. Aujourd'hui, il est devenu le digne successeur de Jim Henson et ne cesse de donner vie à ses marionnettes.
J'hésite à le dire, mais moi je suis vraiment tellement amoureux de la marionnette, je trouve que c'est plus fort que les acteurs. Parce que les marionnettes, c'est des morceaux de bois, c'est des tissus. Mais ce que les marionnettes donnent, c'est l'idée de quelque chose.
Certaines compagnies en France sont devenues des institutions comme la licorne de Claire d'Anquoine, basée à Dunkerque. À Charleville, elle a installé ses semi-remorques sur la place Ducale pour présenter son univers forain. Elle a contribué depuis 30 ans à donner à la marionnette ses lettres de noblesse.
Moi, je suis contente que la marionnette puisse s'inscrire aussi dans le théâtre. Il y a cette ouverture qui me paraît nécessaire, mais d'un côté et de l'autre, que le théâtre intègre aussi dans les grandes scènes de plus en plus la marionnette, pour moi, ça me paraît essentiel.
La marionnette conserve dans beaucoup de pays sa fonction satirique et politique. On le voit dans cette édition avec des compagnies venues d'Iran, du Burkina Faso ou du Brésil. Dans ces pays, les marionnettistes font souvent acte de résistance.
Le festival mondial des théâtres de marionnettes, c'est à Charleville-Mézières, dans les Ardennes, jusqu'à dimanche soir.
Merci Sébastien Legénie. On refait un point route avec Thomas Coignac.
Point route avec les cours Legendre. Cours à domicile, stages de révision et cahiers de vacances par des professeurs de l'éducation nationale. Info, cours-legendre.fr.
Et on l'imagine, Thomas, de nombreuses routes fermées autour de Rouen.
Et oui, à cause, vous en parliez évidemment, de cet incendie très important à l'usine Lubrizol. Impossible d'accéder ou de partir de Rouen sur l'autoroute A150 au nord-ouest de la ville. Elle est fermée dans les deux sens jusqu'à Rouen à partir de la sortie 1 de Canteleu-Marom. Et puis au sud, impossible aussi d'accéder au quartier Flaubert, celui qui abrite l'usine, si vous êtes sur la nationale 338.